CV.
Sur la scène intermondiale.
CV avec Pascal CV.
Que tous les coquins soient démasqués, jugés.
Boulevard.
5, 2, 1. Bon début de journée, bon mercredi 13 mars. J'espère que vous allez bien. Mon nom est Pascal, je m'installe avec vous jusqu'à 11h pour l'heure CV à Boulevard 102.1. Bienvenue chez vous, comme dirait Denis Gravel. Et pour les petits nouveaux, restez là. Changez pas de poste. On commence ça en force à l'heure CV avec nos invités, comment dire, hebdomadaires, mais des sujets quand même importants. Puis il y a une nouvelle dans l'actualité qui est tombée, qui est fort importante au courant de la dernière heure. On va l'en jaser. C'est sûr que c'est jour de budget aussi. Lendemain de budget, disons-le comme ça. Déficit record à 11 milliards de dollars à Québec. Ouais, on était encore en train de courir après l'agente politique du côté de l'Assemblée nationale avec des micros. Je vois les journalistes s'affairer dans les corridors, aller poser plus de questions aux divers ministres, entre autres Bernard Drinville qui a parlé. Bien sûr, le ministre Girard aussi s'est fait attraper dans le corridor. C'est juste à côté de chez nous, hein, ça veut dire que nous, on est à Le Bourgneuf dans nos studios. Mais tu montes en ville, tu arrives à l'Assemblée nationale et ça grouille aujourd'hui. Ça sera analysé de toutes parts, par tout le monde. Tout le monde aura son mot à dire. Avez-vous quelque chose à dire, vous? Peu importe sur quoi. Durant l'émission, c'est le 418-971-1021 ou encore sur Twitch. Il y a des caméras en studio, le twitch.tv/blvd/fm. C'est la façon la plus simple, en fait, de communiquer avec moi en direct pendant l'émission. Merci d'avoir choisi Boulevard 102.1. La gang du matin vient de terminer l'émission et nous, on part la journée en force avec un petit café. C'est notre meeting quotidien, le 10 à 11. Et on commence souvent avec une petite citation qui a marqué le monde. Aujourd'hui, c'est Jean-Paul Sartre qui nous l'offre. Dans la vie, on ne fait pas ce que l'on veut, mais on est responsable de ce que l'on est. Et je pense qu'elle est importante, cette phrase-là. Dans la vie, on ne fait pas ce que l'on veut, mais on est responsable de ce que l'on est. Ça peut parler à plusieurs personnes aujourd'hui, peut-être. Chose certaine, on part ça en force à Boulevard 102.1. On s'installe. C'est Nick et copilote dans vos oreilles. Et je dois dire quand même qu'à l'extérieur, c'est moins 1 degré avec du soleil alternant soleil-nuages. Et pour la journée, là, ça pourrait monter jusqu'à 6. Alors, si vous avez des choses à faire à l'extérieur, c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est magnifique comme journée à Québec. Bon, on revient avec tout ce qui est information.
Leur CV avec Pascal CV.
Nouvelle de dernière heure qui a pris de court un peu tout le monde. Vous vous souvenez certainement de l'ex-juge Jacques Delisle. Elle retournait en cours demain, donc jeudi matin. Et il va livrer un plaidoyer de culpabilité. Tout le monde est un peu à terre de cette nouvelle-là en ce moment. Je parlais à 2-3 avocats ce matin, puis bon, certains pouvaient croire que ça, c'était dans les possibilités, les hypothèses, mais que ça arrive, ça, peu étaient convaincus que ça allait arriver, que le juge de Lille, l'ex-juge de Lille, allait plaider coupable sur un des chefs d'accusation. Bon, chose certaine, son avocat, Maître Jacques Larochelle, a dit que demain, ce sera important. On ignore, par contre, à quel chef d'accusation va plaider coupable. C'est un revirement de situation majeur. Si vous n'avez pas suivi la cause, là, ça fait 15 ans qu'on est là-dedans. Ça fait 15 ans qu'on dit qu'il est non coupable de tout ce qu'on l'accuse. L'ex-juge de Lille tente de prouver son innocence depuis 2010. Et son avocat, Maître Jacques Larochelle, avait récemment montré une ouverture à participer à une conférence de facilitation avec la poursuite pour voir si on pouvait avoir un accord là, entre les parties et voir si c'était envisageable finalement. Mais c'est pour ça qu'on parle d'un grand revirement de situation qui a été confirmé par la Couronne et la Défense ce matin. Ça s'est fait lors d'une audience de la Cour supérieure au Palais de justice de Québec. La Cour suprême devait rendre sa décision à savoir si elle était dans le dossier de l'ex-juge de Lille ou non, là, mais le retour en cours pour disposition du dossier pour avoir un impact sur l'échéancier en question. En portant sa cause devant la Cour suprême, l'ancien juge, lui, voulait restaurer l'arrêt des procédures pour son deuxième procès en 2022 pour le meurtre de sa conjointe que la Cour d'appel avait annulé en septembre. L'annulation des procédures par la Cour d'appel, ça aurait forcé un nouveau procès. Puis l'ancien juge est quand même rendu à 88 ans puis avait obtenu cet arrêt de procédure en raison de la destruction d'éléments de preuve. Puis dans son premier procès, rappelez-vous, en 2012, Jacques Delisle avait été déclaré coupable du meurtre de sa conjointe, Nicole Rainville. Et là, il y avait eu une demande de révision judiciaire. Jacques Delisle purgeait une peine de prison à vie. Il avait finalement eu droit à un deuxième procès. On avait eu une décision du ministre fédéral de la Justice qui avait fait des modifications, puis des motifs, il y avait en fait des motifs de croire qu'une erreur judiciaire avait été commise dans l'affaire. Et après l'arrêt des procédures en raison de négligence inacceptable du pathologiste qui était chargé de faire l'autopsie de Nicole Rainville, le deuxième procès a jamais eu lieu. Et là, l'ex-juge de Libre est depuis libre. Et demain, c'est ça, grosse journée au Palais de justice de Québec, Jacques Delisle qui plaidera coupable. J'ai bien hâte de suivre ce dossier-là. C'est un des dossiers les plus rocambolesques qu'on a connus, là, assurément. Et de loin, quel exercice judiciaire juridique. Il y a plein d'avocats qui le suivent pas nécessairement parce que ben, c'est le juge de Lille puis c'est une cause en particulier, mais pour l'exercice de droit qui est en arrière de ça. Sinon, dans les nouvelles aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu ça, ça passe un peu partout, une patch, une super patch qui guérirait tout. Il y a des experts, bien sûr, qui se disent très inquiets. Ils disent que c'est préoccupant qu'il y ait des Québécois qui se procurent ces patchs-là pour guérir plusieurs problèmes de santé. Pour de la perte de poids, de l'insomnie, de la douleur, de l'anxiété, il y a des gens qui vantent les mérites des super patchs pour guérir bon, plein de maux, là. Et ça, ça se passe majoritairement sur les réseaux sociaux. C'est des timbres qui sont finalement fortement déconseillés par plusieurs experts, là. Et d'autres gens, finalement, pendant que les experts disent que c'est déconseillé, plaident à quel point c'est merveilleux sur les réseaux sociaux. On dit, par exemple, « Ma conjointe essaie la patch Ignite depuis 4 jours et elle a perdu 4 livres en faisant son quotidien normal. Elle est très encouragée. » On pourrait vraiment prendre une voix comme ça, là. « J'ai découvert un produit qui m'aide déjà avec mon anxiété. Je me sens déjà plus calme et mon hamster tourne déjà moins. En seulement 6 heures, une nouvelle évolution, sans médicaments, sans effets secondaires. » Mais là, écoute, c'est-tu quelque chose qui est prouvé scientifiquement, qui est prouvé par la médecine? La réponse, c'est non. Et il y a des témoignages récents aussi qu'on retrouve sur les réseaux sociaux en lien avec ces super patchs-là. On dit que c'est un produit facile à commander en ligne et c'est une compagnie qui est basée en Floride. Au total, il y a 12 timbres colorés avec des noms comme Liberty, Victory, Joy, qui sont proposés pour régler plein de problèmes. Et il y a des enfants qui se font apposer ces timbres-là par des parents qui pensent que ça va aider sur plein de choses. Donc, sans information, on met les patchs sur les enfants en plus. C'est pourquoi là, il y a plein d'experts comme le président de l'Ordre des pharmaciens du Québec, Jean-François Degagné, qui sort en disant que c'est extrêmement préoccupant. Il y a un grand risque que les gens décident d'arrêter un traitement peut-être pour prendre ces patchs-là en plus. Donc, on essaie de faire un contrepoids à tout ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux. Il y a des parents québécois aussi qui ont témoigné par eux-mêmes avoir eu recours à tout ça pour aider leurs enfants à se concentrer à l'école. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les super patchs. Moi, c'est la première fois que j'en entendais parler. Je n'avais rien vu aller non plus sur les réseaux sociaux. Pourtant, souvent, je suis quand même alerte à tout ça. Mais on semble dire que c'est quand même courant là, de voir des publicités comme celle-là pour les super patchs. C'est pas homologué par Santé Canada. On déconseille même l'utilisation. Puis la facture, elle grimpe vite. Des fois, c'est une façon aussi de voir est-ce qu'on essaie de faire de l'argent sur le dos des gens qui sont peut-être crédules face à ce produit-là. Mais 28 patchs, ça coûte 60 $ environ. Puis la dose dure 24 heures. Et on dit qu'il est possible d'utiliser 2 à 3 timbres en même temps. Donc, rapidement, ça va te coûter une saprée beurrée pour quelque chose qui est vraiment pas conseillé et qui est même déconseillé. Bien sûr, jour de budget hier. On est lendemain de budget. Déficit record de 11 milliards de dollars à Québec. Notre chroniqueur politique, Jérémy Guillaume, l'avait dit en début de semaine. Hein. Il avait dit, c'est sûr qu'on va rouler sur le déficit. Ce sera la ligne de presse un peu partout. Dossier intéressant que j'ai vu, qui a été offert par Radio-Canada, en fait, sur le budget du Québec. Si vous voulez aller voir, vous contribuez à quelle hauteur sur les taxes, les impôts, mais aussi comment est-ce qu'on réinvestit votre argent. Je trouve que c'est absolument brillant ce qu'ils ont fait. Tapez Radio-Canada, voici où va votre argent. Vous allez voir qu'il y a des indices de calcul aussi qui vous sont offerts. Là. Et on dit, bon, de la santé à l'éducation en passant par la sécurité publique et l'environnement, vous pouvez suivre un parcours de votre contribution, vous, en tant que contribuable, grâce à un calendrier calculateur interactif. Donc, vous entrez combien de personnes sont dans votre foyer et contribuent aux taxes, aux impôts et tout, combien d'enfants ils sont, votre salaire brut, le deuxième salaire brut peut-être de votre conjoint ou votre conjointe ou autre. Et on va aller vous parler de la charge fiscale, des taxes de vente du Québec, combien ça revient pour vous contribuer à l'État et où est-ce que c'est investi. Je trouve ça absolument brillant parce que souvent, les grosses enveloppes budgétaires, les gros montants octroyés, les subventions, c'est un peu loin de nous. Mais quand on voit notre argent, celle pour laquelle on travaille quotidiennement, être utilisé pour certains projets, puis qu'on n'est peut-être pas dans l'idée de comprendre exactement notre 20$, notre 30$, il s'en va où? Et est-ce qu'il s'en va là où on considère, en tant que citoyen, que c'est une priorité? Pourquoi je dis ça? Parce que c'est ce qui nous aide aussi à aller voter aux élections. C'est ce qui nous aide à comprendre où est-ce qu'on travaille, dans quel ministère est-ce que vous aimeriez qu'il y ait plus d'efforts qui soient déployés, comment avoir cette vision politique qui est en corrélation directe avec vos opinions, avec votre façon de voir la vie. Je trouve que c'est un outil absolument brillant et que Radio-Canada nous a offert quelque chose là, qui va être, je pense, très agréable à consulter si jamais vous allez jeter un petit coup d'œil là-dessus. Sinon, ben, c'est sûr que là, on est dans un budget déficitaire. C'est imposé à l'État québécois. On sait qu'on compare de façon avantageuse le budget au fait que ça aurait pu être pire. On prévoit un rehaussement de la dette publique de plusieurs dizaines de milliards avec les déficits, mais qu'il faut se serrer la ceinture pour être plus efficace dans les prochaines années. On parle beaucoup aussi des dépassements de coûts qu'on a eu parce qu'on a eu toutes ces grèves des fonctionnaires dans la fonction publique. Finalement, on a eu des augmentations de salaire plus élevées que celles qu'on avait budgétées. Ce matin, Bernard Drinville était... Bon, c'est quand je vous disais que ça grouillassait là, à l'Assemblée nationale. Bernard Drinville était suivi de près. Et ce qu'il disait, c'est, ben, c'est ça. Là, l'enveloppe des négociations et de la grève a malheureusement explosé. Puis on est quand même très conscient que l'éducation a une part très important dans notre société, puis on va tenter de faire en sorte de bien investir. C'était des lignes quand même assez larges, assez floues, et je pense qu'on va plus se statuer au courant des prochaines semaines. Là. On est encore dans l'épluchage de ci et ça, mais ce midi, manquez pas ça, Antonine Iacarini sera avec nous dans Marceau le midi pour aller farfouiller à travers tout ce qu'on vous a parlé par rapport au budget. Ça va être super intéressant de l'entendre. Puis elle a pris le temps justement d'aller regarder quels sont les gros enjeux pour Québec et finalement la société en général. Êtes-vous content? Êtes-vous mécontent? Je sais qu'il y a des entrepreneurs à l'écoute. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse en fait, le budget quand il sort? Parce que des fois, ça a des impacts directs sur vos quotidiens, sur également vos finances. Alors, je veux vous entendre là-dessus. Courte pause, on revient dans un instant. Vous êtes dans l'heure CV à Boulevard 102.1.
Skieur expert ou amateur.
Boulevard Pascal CV.
Allons, ayons confiance.
Boulevard 102.1.
C'est moins un degré à Québec en ce moment. Ça peut monter jusqu'à 6 au courant de la journée. Quelques nuages, oui, mais majoritairement du soleil aujourd'hui, c'est ce qu'on prévoit. Ce soir et cette nuit, possibilité d'averse de neige avec 1 degré. Demain, jeudi, encore quelques possibilités d'averse, mais de neige ou de pluie, dépendamment du secteur où vous êtes, parce qu'il fera 9 degrés dans la grande région de Québec. C'est un... Comment dire? Le printemps s'en vient, mais on y goûte déjà depuis plusieurs semaines. C'est pas vraiment un gros hiver qu'on a eu, là. Et vendredi, c'est du soleil aussi avec 6 degrés. On jasait avant de partir en bloc publicitaire des fameuses patchs, là, des super patchs qu'on a vus dans l'actualité aujourd'hui. Moi, j'ai dit, j'avais jamais entendu parler de ça avant de lire l'article. Puis je vous ai demandé, est-ce que vous aviez déjà entendu parler de ça? Il y a des textos qui sont entrés, il y a des gens qui, finalement, même se sont fait conseiller ça par des amis, entre autres une auditrice qui écrit « Oui, moi, ma massothérapeute m'en a parlé de sa nouvelle technologie. Elle m'en parlait et finalement, elle me disait que ça règle tous les problèmes. Apparemment, elle, ça a réglé tout ce qu'elle avait comme mot dans la vie. Elle m'a expliqué comment ça marche. Puis elle dit, je trouvais ça tellement loufoque qu'à un moment donné, je me suis dit, ben voyons donc, voir que ça peut m'aider à me concentrer. Elle dit, oui, oui, oui. Puis elle lui a même donné une de ces patchs-là. Elle dit, moi, j'ai un TDA diagnostiqué. Là. Et pour vrai, je l'ai tenté. Là. Elle était tellement convaincante. J'ai pas vu de différence. En plus, ben, je ne sais pas c'est qui le génie qui a inventé ça, mais je n'ai pas été capable d'avoir de l'information quand j'ai décidé de regarder sur le web. Puis en plus, ben, justement, ça coûte extrêmement cher. Fait que j'ai plus l'impression que c'est un homme d'affaires qui a décidé d'en avoir quelques-uns. Merci beaucoup à l'auditrice qui nous a parlé de cette situation-là. M'envoyer aussi des liens pour voir où est-ce que je pouvais m'en procurer, mais on va laisser tomber ça. Je vous rappelle, Santé Canada ne le recommande pas du tout. Je dois faire quand même une petite parenthèse là, avec le budget Girard qui a été déposé hier. Ce qui nous concerne ici, bon, à Québec et à Lévis, c'est le Front commun par les maires de Québec et Lévis. Ils sont déçus par le budget Girard. Ce qu'on dit, c'est que justement, ils avaient exprimé leur entrain, leurs besoins côté financement pour le transport en commun, le transport collectif ici entre la Rive-Sud et la Rive-Nord et sur la Rive-Sud et la Rive-Nord. Sur le plan du développement économique, on avait envie finalement qu'il y ait un gain majeur pour la grande région et ils ont exprimé leur vive déception là, face au budget Girard. Pour eux, c'est pas grand-chose. Finalement, on accouche d'une souris dans toutes nos demandes en ce qui concerne la zone économique métropolitaine et que, bon, finalement, Montréal a été plus gâté et que nous, c'est dans le vide, même si on attend budget après budget. On dit que l'argent est toujours là, par contre, du côté du gouvernement, là, entre autres, Jonathan Julien, ministre responsable de la capitale nationale, a dit, ben, on va pouvoir faire des travaux, on va pouvoir monter un éventuel réseau structurant. L'argent est encore sur les rails, disons-le comme ça, mais peut-être que justement, il y aura besoin de plus d'études, il y aura besoin de plus de travail dans le dossier. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est nouveau pour nous? Non, on a passé les dernières années à jaser de ça, puis à ne pas nécessairement avancer, autre qu'impacter finalement la vie de tous et chacun avec des expropriations qui n'auront pas eu lieu. Je vous rappelle que dans quelques instants, on va recevoir Nancy Audet sur le fameux dossier qui était dans l'actualité la semaine dernière sur la DPJ, en fait, une adolescente qui a été agressée sexuellement par son intervenant. Et c'était sorti, puis c'est tombé en deux craques. Il y avait beaucoup de choses politiques, il y avait beaucoup de dossiers de faits divers entre Pic Turmel, puis justement l'approche du budget Girard. Mais c'est important d'en parler de tout ça. Il y a une adolescente de la DPJ qui a été agressée sexuellement par un intervenant du centre où elle était hébergée. Et ça a été révélé dans une décision de justice. Depuis ce temps-là, Nancy Audet accorde beaucoup d'entrevues sur la structure, comment ça se passe. Elle-même a été une enfant de la DPJ finalement, puis maintenant défend le plus possible ce genre de cas-là. Mais on n'est pas allé dans l'épineux, dans le difficile quand j'écoutais les entrevues. Donc, j'ai recontacté Nancy Audet, puis sur ce sujet-là, j'ai eu envie de l'entendre. Donc, elle sera avec nous à leur CV dans un instant. On va lui jaser en fait de ce qu'elle a pu entendre, voir, peut-être vivre aussi au sein de la DPJ. Ce qu'elle dit, c'est que souvent, ça arrive, bon, de ses dires, des témoignages qu'elle a reçus, mais ça meurt dans l'œuf. On ne va pas plus loin avec ce genre de déclaration-là. Et elle pense que c'est une autre problématique du côté de la DPJ. Nancy Audet est conférencière maintenant. Elle est, comme je vous disais, ex-enfant de la DPJ. Puis elle n'était vraiment pas surprise de voir qu'une adolescente avait été agressée sexuellement par un employé du centre jeunesse. Et ça, c'est un peu fascinant quand elle dit « j'étais vraiment pas surprise » puis qu'elle est capable d'en témoigner, de le faire écrire dans un article de presse et d'être avec nous. On va aller voir un peu cet envers du décor et surtout, qu'est-ce qu'on doit remanier, peut-être comment on doit s'y prendre aussi, parce que là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, mais dans une situation où c'est auprès de la DPJ, au sein de la DPJ ou d'intervenants qui sont supposés aider des jeunes à s'en sortir de cette détresse environnementale-là. Moi, ça est venu vraiment me chercher puis j'ai envie d'explorer le sujet avec elle. Elle sera dans leur CV dans un instant. Je dois vous dire, avant de passer à Émile Bilodeau, que vous êtes toujours des gens gagnants. Écoutez le poste que vous écoutez en ce moment sur Boulevard 102.1 parce qu'il y a le Salon du vélo de Québec qui s'en vient. Ça se passe au Centre de foire d'Exposité. C'est du 15 au 17 mars. Donc, dans deux jours jusqu'au 17 mars, il y aura près de 100 exposants qui seront sur place pour vous présenter les dernières nouveautés et tendances à venir pour la saison 2024. Et c'est le plus important salon au Québec qui est consacré exclusivement là, au monde du vélo puis du cyclotourisme. Ça a pris beaucoup d'expansion. Les gens trippent maintenant à partir en selle avec les petits bagages, aller faire du camping puis découvrir finalement des lopins de terre autant au Québec qu'à l'international sur leur vélo. Si vous voulez y aller, j'ai une paire de billets à faire gagner maintenant au 418-971-1021. Si vous connaissez des fans de vélo, vous en êtes 418-971-1021. Je vous donne une paire de billets dès maintenant. Tu me diras-tu, Émile Bilodeau? On revient dans un instant.
RCV avec Pascal CV.
De retour à l'émission, sujet hautement important à aborder, je pense. Puis surtout, on n'est pas des experts là-dedans. On ne sait pas trop comment ça se passe à l'interne. Souvent, on va avoir des informations quand ça s'en va dans les médias, mais c'est quelque chose qui est très hermétique, hein, la DPJ, la Direction de la protection de la jeunesse, c'est très hermétique pour plusieurs raisons. On a beaucoup d'intervenants, d'intervenantes qui nous parlent, qui nous donnent l'information. Tu as une Régine Laurent qui a travaillé très fort au courant des dernières années pour s'assurer qu'on donne le plus possible, en fait, d'air d'aller aux intervenants, aux intervenantes. Mais là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Il y a toujours des débordements qui sont possibles d'arriver. Je sais que, bon, c'est une organisation qui tente le plus possible d'aider les enfants dans leur milieu de détresse pour multiples raisons. Mais de lire un article quand c'est supposé être une organisation qui aide nos enfants, de lire un article qui est titré « Une ado agressée sexuellement par son intervenant », ça vient toujours me chercher. Pour deux raisons. La première, c'est que je connais beaucoup d'intervenants, d'intervenantes qui travaillent au sein de la DPJ et je sais à quel point ils travaillent fort. Je sais à quel point c'est de grosses journées, que c'est difficile quand ils n'ont pas réussi à voir tous les enfants qu'ils avaient à voir. C'est difficile beaucoup des situations qu'ils voient, qu'ils vivent et qu'ils ont à gérer. Mais il y a quand même ce pan important à ne pas prendre à la légère s'il y a des débordements. Et ce débordement-là, bien, c'est bien au-delà de ce qui est acceptable ou encore tolérable, disons-le. Là, je veux dire, une adolescente de la DPJ qui a été agressée sexuellement par un intervenant du centre où elle était hébergée. Ça, c'est la semaine dernière qu'on révélait le tout dans la presse parce qu'il y avait une décision de justice qui avait été rendue publique. Un dossier qui est actuellement sur le bureau de la directrice nationale de la protection de la jeunesse et qui a fait réagir bien des gens, dont notre invitée au bout du fil. Elle s'appelle Nancy Audet, elle est conférencière et c'est une ex-enfant de la DPJ. Bonjour Nancy.
Bonjour.
Est-ce que vous comprenez des fois la difficulté entre le fait de savoir que cette organisation-là fait des pieds et des mains pour plusieurs intervenantes pour essayer d'aider des jeunes dans un milieu qui est défavorable, qui est désorganisé, versus une histoire atroce comme celle-là qu'on lit dans l'actualité?
Oui, bien, pour comprendre qu'on est dans une situation un peu complexe, difficile, parce qu'il y a une pénurie majeure de personnel. Et je pense qu'il y a quand même certains risques liés au fait qu'on doit engager des gens qui n'ont pas une formation, la formation nécessaire pour travailler avec ces enfants. Il y a de plus en plus de gens qui sont en contact avec eux, qui n'ont pas les outils pour travailler avec ces enfants-là. Il y a des facteurs de risque plus importants qu'avant. Ceci étant dit, des agressions sexuelles pour des enfants de la Direction de la protection de la jeunesse, que ce soit par un intervenant, que ce soit en famille d'accueil, c'est pas la première fois que ça arrive. C'est arrivé déjà à plusieurs reprises, malheureusement. Ce qui me déçoit ou ce qui devrait nous inquiéter, c'est que dans ce cas-ci, ça a été judiciarisé. Et je dois vous dire que j'ai reçu énormément de messages de jeunes qui ont été agressés sexuellement, ou même il y a des intervenants qui me disent qu'ils ont été témoins d'agressions sexuelles, d'enfants qui ont été victimes d'agressions sexuelles, que ce soit dans un centre jeunesse, dans un foyer de groupe, et on n'a jamais appelé la police. Il n'y a jamais eu de plainte. Donc, on va renvoyer l'employé en question qui a agressé un enfant ou un jeune et on ne fait pas de suite. Pour moi, c'est inacceptable.
Comment ça s'explique qu'on n'ait pas de l'avant avec une plainte? C'est que ces enfants-là vivent tellement une détresse, essentiellement qu'ils ne vont pas aller se mettre dans un autre dossier qui compliquerait peut-être leur quotidien. Comment est-ce qu'on explique ça? Parce que vous êtes quand même une ex-enfant de la DPJ, vous avez côtoyé des gens, vous avez vu cette détresse-là, vous l'avez même vécue, puis là, vous faites œuvre utile en jasant comme ça dans les médias et autres. Mais comment est-ce qu'on explique qu'il n'y a pas de plainte parfois dans ce type de dossier?
Je pense que ce qui me touche le plus ou m'inquiète le plus, c'est à quel point encore aujourd'hui on va protéger l'institution avant l'enfant. Et dans tout plein de décisions, de situations, on met toujours de l'avant l'institution avant l'enfant. Alors que cette institution-là, elle est chargée de protéger normalement les enfants les plus vulnérables de notre société. Donc, il y a un intervenant qui a été témoin et m'a écrit dans les derniers jours, un intervenant d'expérience pendant 35 ans. Il a travaillé en centre jeunesse avec des enfants victimes de maltraitance. Et dans la dernière année, Il y a deux intervenantes qui ont agressé des enfants et les deux intervenantes ont tout simplement été congédiées. Et même les parents des enfants n'ont pas été avisés. Et il est parti, il était tellement triste pour lui, c'était l'incompréhension. Il a voulu se lever pour ces enfants-là, aller à leur défense. Mais les éducateurs, les intervenants ont peur parce qu'après ça, il y a des représailles pour eux. Ils vivent souvent dans la peur. C'est quelque chose qui me trouble aussi. Parce que chaque fois que je leur parle, c'est faut vraiment pas que personne sache que je te parle, sinon c'est sûr que je vais perdre mon emploi. Ils sont toujours, toujours dans la peur. Donc ça fait, je le dis souvent, c'est le mot qui revient le plus souvent quand on parle de DPJ, c'est la peur. La peur des enfants, la peur des adolescents, la peur des familles, la peur des éducateurs, des intervenants. C'est pas normal qu'une institution qui est chargée de protéger les enfants suscite autant de peur. Je pense qu'on doit tous se poser des questions. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Ces gens-là aussi travaillent dans un système qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas... ils sont prisonniers aussi. Les éducateurs, les intervenants, ils sont prisonniers d'un système qui date de plusieurs années, qui a des façons de faire qui ne devraient plus exister depuis longtemps, comme les contentions, les mesures d'isolement à répétition pour punir les enfants, les fouilles à nu. Ça crée des dommages chez les enfants.
Parce que ça n'a pas évolué comme la société a évolué, c'est votre constat, Nancy Audet?
Bien, non seulement ça n'a pas évolué, mais ça s'est dégradé dans les dernières années. Parce que il y a une vingtaine d'années, pour rentrer à la DPJ, les intervenants qui sont là de longue date me disent que c'était vraiment difficile d'obtenir un emploi. C'était pour l'élite de la profession. Pourquoi? Bien, parce qu'on travaille avec des enfants qui ont été victimes de maltraitance. T'sais, on l'oublie, là, mais les enfants qui sont en centre jeunesse, c'est des enfants qui ont subi de la violence corporelle, qui ont subi de la négligence grave, qui ont pu compromettre leur développement, des agressions sexuelles, qui ont été dans des contextes de violence conjugale pendant de nombreuses années, qui vivent avec des stress post-traumatiques. Donc, pour travailler avec ces enfants-là, il faut vraiment être qualifié. C'est un grand défi. À l'époque, c'était très difficile de travailler avec cette clientèle-là. Et donc, souvent, il y avait 3 entrevues à passer minimum. Maintenant, depuis quelques années, c'est n'importe qui. Il y a beaucoup de gens, je les ai rencontrés, je vais les voir. C'est pas de leur faute, ils veulent bien faire, mais ils rentrent là avec des formations qui sont même pas adéquates pour travailler avec ces enfants. Ils font de leur mieux. Donc, on n'est plus vraiment dans l'accompagnement des enfants, dans l'aspect clinique, dans le traitement. On ne sait pas quand un enfant se désorganise, quand il vit de la tristesse, quand il vit de la colère. C'est normal avec tout ce qu'il a vécu. Mais là, il y a les intervenants ont un bouton panique sur le chandail. Et au lieu de faire l'intervention qu'ils devraient faire, c'est-à-dire calmer l'enfant, lui apprendre à gérer ses émotions, ben on appuie sur le bouton panique, les agents d'intervention arrivent, contention, isolement. Isolement. Tu ne calmes pas, sors pas de ton isolement.
Parce que c'est la procédure où ça va trop vite, on a trop de jeunes à voir, puis on manque de main-d'œuvre, puis on retombe justement dans la facilité.
Je pense que c'est plusieurs, dont le manque de formation. Il y a des intervenants qui travaillent dans les unités les plus difficiles en ce moment. Ils sont là depuis 2 ans, ils sortent de l'école, ils me disent qu'ils n'ont eu aucune formation depuis 2 ans. Ils sont complètement laissés à eux-mêmes.
Ça, j'ai entendu, certains discours là, comme quoi tu sors de l'école et tu es directement sur le plancher, pas toujours appuyé, puis tu dois faire ton travail parce que la pénurie de main-d'œuvre est trop forte, là.
Oui, puis tu sais, on devrait être supervisé par un intervenant d'expérience, mais lui, il est tellement débordé qu'il n'a pas le temps de superviser mes plans d'intervention. Et la pénurie fait en sorte que, vous savez, quand vous êtes dans une unité avec 10, 12 petits garçons qui ont des traumas complexes, qui en plus qui cohabitent ensemble, déjà ça, c'est pas normal. Parce que quand un enfant se désorganise, quand il crie, quand il devient violent, les 11 autres se désorganisent parce que ils ont vécu tellement de situations comme ça, de crise, de colère. On les met encore dans ce contexte-là, ensemble. C'est vraiment difficile. Donc, quand un intervenant quitte pour aller sur une intervention, il laisse sa collègue ou ses 2 collègues seuls avec 11 enfants qui sont aussi en train de se désorganiser. C'est sûr que le plus facile, c'est quoi? C'est de retirer l'enfant puis de l'envoyer en isolement. Mais à la longue, ça, on voit que les enfants, l'état de santé des enfants se détériore au lieu de s'améliorer. C'est pas tous les enfants, mais quand même beaucoup d'enfants. Donc, on voit ces conditions-là qui se détériorent et c'est pour ça qu'il y a une pénurie parce que les intervenants, les éducateurs démissionnent et démissionnent depuis quelques années.
Parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils voient, ouais.
Ben, donc, ils me disent on peut pas vraiment les aider. Puis, il y en a beaucoup qui me disent je sauve ma peau parce que je suis en train moi-même de tomber très malade et je n'ai pas le choix. Puis, je leur dis toujours j'ai de la compassion pour vous. Je vous comprends de partir puis de sauver votre peau, comme vous me dites. Mais moi, ce qui m'attriste, c'est que vous pouvez vous sauver. Vous pouvez partir.
Mais
ces enfants-là, eux, ne peuvent pas se sauver. Et si ce système rend malade autant d'adultes bienveillants qui, au départ, voulaient aider ces enfants, si le système les rend malades, imaginez à quel point il rend les enfants malades.
Oui, mais ça, c'est important. Je connais quelqu'un qui est tombé en arrêt maladie après plusieurs années comme intervenant à la DPJ. Puis ça prend des semaines juste à être capable d'arrêter son cerveau en se disant « je viens d'abandonner les enfants, mais je n'étais même plus capable de les aider à la hauteur de, normalement, ma stature mentale, de mes connaissances, de mes formations.
Donc, imaginez les enfants.
Exactement, qui sont là, puis qui attendent aussi des soins, qui attendent un accompagnement. Mais je pose une question qui est difficile. Nancy Audet, vous êtes conférencière, vous parlez avec des gens au sein de la DPJ, vous parlez à des bénéficiaires des soins et des interventions de la DPJ. Vous êtes vous-même une ex-enfant de la DPJ. En contexte de pénurie de main-d'œuvre, y a-t-il quelque chose qui est pire ou encore qui est à solutionner, qu'on ne voit pas aller? Parce que si on n'a personne pour accompagner ces enfants-là, est-ce mieux d'avoir des gens moins bien formés et qu'on soit plus rapide sur le pas d'avoir de la main-d'œuvre ou on devrait attendre, puis peut-être que ces enfants-là n'ont pas un adulte responsable auprès d'eux, auprès de la DPJ pour les aider. Comment est-ce qu'on réussit finalement à arrêter ce cercle vicieux-là? Est-ce que c'est mieux un intervenant qui est parfaitement formé ou un intervenant qui ne l'est pas?
Ben écoutez, je pense que ce qui est mieux, c'est que ces enfants-là ne se retrouvent jamais dans un centre jeunesse. Parce que ce n'est pas un endroit pour un enfant. Il n'y a aucun enfant qui va pouvoir s'épanouir dans un grand bâtiment qui ressemble à une prison, dans des petites chambres minuscules qui ressemblent à des cellules, sans vie, sans effet, sans affection, sans amour. Un enfant, ça a besoin d'être dans la communauté. Parce que ces enfants-là sont mis à part de la communauté, sont enfermés. Ils vont à l'école sur place, ils n'ont pas de sortie à l'extérieur. Ils ne savent plus c'est quoi vivre dans la communauté. Et ça, si vous savez pas à quel point c'est dommageable pour ces enfants-là. C'est terrible ce qu'on leur fait vivre. Donc, moi, je te dis qu'à la base, il faut qu'on se pose des questions. Comment faire pour éviter que les enfants se retrouvent aussi nombreux dans les centres jeunesse? Parce que là, ça déborde de partout. On sait plus où mettre les enfants. Et c'est rendu qu'on met même des petits-enfants de 5 ans dans ces endroits-là, comme à l'époque des pensionnats. Et ça, c'est on viole leurs droits en ce moment. Non seulement ça, mais moi, je m'inquiète beaucoup pour ces enfants-là qui ne pourront pas obtenir les soins et s'épanouir comme ils le devraient. Donc, il faut voir en amont. Moi, je pense vraiment de plus en plus que la solution va venir de la communauté. Pour les gens qui nous entendent, je pense qu'il faut qu'on recommence à devenir davantage un village, qu'on pense à s'entraider. Qu'on donne du temps. Donner du temps, ça coûte rien et ça peut faire une grande différence. Donc, j'invite les gens à s'impliquer dans les organismes communautaires qui viennent aux familles vulnérables, dans leur communauté, dans leur ville, dans leur village, pour prévenir la maltraitance en amont. Aider une maman monoparentale qui vit une période difficile pour l'empêcher qu'elle perde son enfant, C'est ça qui va faire la différence. Et on a un petit peu perdu cet esprit-là de communauté, d'entraide. Et il faut ramener ça, c'est urgent, c'est important. C'est ça mon cri du cœur. Puis si vous voyez qu'il y a un petit enfant à l'école de votre enfant, vous savez souvent, moi j'étais l'enfant qu'on n'invitait pas aux fêtes d'amis. J'étais la tannante, j'étais l'enfant en problème. ça me faisait bien de la peine quand je revenais le lundi à l'école, puis tous les enfants racontaient la fête et tout. Mais au fil des années, ceux qui ont décidé de m'inviter quand même chez eux, de m'offrir ce que j'appelle un îlot de bonheur, ils ont fait la différence dans ma vie. Je dis aux gens, si vous êtes un parent, un papa, une maman, un grand-parent, la prochaine fête d'amis, l'enfant que vous ne voulez pas inviter, c'est le premier qui a besoin d'aller chez vous. Il a besoin d'aller voir qu'il y a un modèle différent qui existe. C'est quoi une maison où il y a de l'amour? Parce que si on ne lui offre pas un autre modèle, il ne saura pas que ça existe. Et il ne pourra pas faire un choix un jour de dire, moi, je brise le cycle de violence. J'ai vu ailleurs que ça existait. Et non seulement ça, mais lui donner un moment de répit, le temps de reprendre son souffle et l'opportunité de vivre un moment de bonheur.
Se
ça peut faire
en
une grande différence.
Oh, c'est un excellent message, ça. Je pense que par le fait que vous l'avez vécu, par le fait que c'est quelque chose qui vous a aidé dans le passé en tant qu'enfant, de se sentir en sécurité, même l'instant de 3 heures, là, une fête d'amis ou autre,
ouais.
Je trouve que c'est un message qui est percutant. C'est vrai pour les parents aussi, tu sais, de dire, hey, l'ami que tu n'as jamais pensé inviter dans ta classe, c'est qui? Parfait, on l'invite. Puis d'avoir cette conversation-là avec nos enfants aussi. Peut-être d'avoir l'ouverture, la transparence, d'exposer aux enfants qu'il y a des réalités qui sont différentes, puis la personne qui se fait écœurer, bien peut-être que l'école serait le seul endroit, au final, où il pourrait être bien, mais par l'attitude des enfants, peut-être même de son propre enfant et des autres, bien, il n'y en a pas d'endroit où il sent bien. Peut-être la conversation avec les jeunes aussi est importante. En terminant, Nancy Audet, est-ce que c'est possible pour vous de nous parler sous quels aspects, ou peut-être, je sais que c'est dire ça rapidement, je veux dire, c'est quand même très superficiel, mais sous quels aspects vous avez eu à vous reconstruire par la suite après avoir été une enfant qui a eu besoin des services de la DPJ?
Ben, c'est tous les aspects. C'est à tous les niveaux. On pourra en parler longtemps. Puis dans mes conférences, j'explique ce travail de reconstruction, de ce que fait la différence. Puis après, les gens viennent me prendre dans les bras, ils pleurent, puis disent, mon Dieu, j'ai compris tellement de choses parce que reconstruire, c'est long, c'est difficile. Mais chez les enfants de la Direction de la protection de la jeunesse, quand on a vécu de la maltraitance sévère, on n'a aucune estime de nous-mêmes. On nous a dit pendant tellement longtemps qu'on ne valait rien, qu'on a fini par le croire. Donc, la première chose qu'on devrait travailler quand on a été victime de la maltraitance ou quand on tente d'aider une personne qui a été victime de maltraitance, c'est de l'aider à rebâtir son estime puis sa confiance en lui. Parce que ce manque d'estime, ce manque de confiance, si on n'arrive pas à rebâtir ça, ça nous empêche d'avoir une vie épanouie, mais ça nous empêche aussi d'avoir des relations normales avec les autres, des relations épanouies, de respect. On va souvent se diriger vers des relations toxiques, des relations qui sont mauvaises pour nous parce qu'on a intégré profondément que c'est ça qu'on méritait. Ça va nous empêcher aussi d'avoir un travail valorisant. Quand tu n'as pas d'estime de toi, tu ne vas pas à l'école. Tu penses que tu n'es pas assez bon pour aller à l'école, pour apprendre des choses, puis avoir un métier, un travail. Donc, pour vraiment réussir à briser le cycle de violence, il faut travailler l'estime de soi. Ça passe par les gens qui nous côtoient, les gens qui nous entourent, apprendre à s'entourer de bonnes personnes, les personnes qui nous tirent vers le haut. C'est des thérapies. J'ai suivi 3 grandes thérapies qui m'ont énormément aidée. Et moi, j'ai été chanceuse parce que j'ai réussi à avoir un travail qui m'a permis d'obtenir des soins, les soins dont j'avais besoin. Donc, je suis très inquiète parce que les jeunes qui quittent la DPJ, il y en a seulement 17 % qui obtiennent un diplôme d'études secondaires. C'est 75 % dans la population. Donc, non seulement on les envoie à la rue, mais en plus, ils n'ont pas d'éducation.
Et pas de ressources.
Vous comprenez que le cycle recommence et recommence encore.
Ils peuvent devenir parents par la suite, puis vu le manque d'outils, de ressources, pas parce qu'ils voulaient être de mauvais parents, mais ça continue aussi.
Exactement. J'ai beaucoup de compassion pour ces personnes-là. Donc, la plus belle chose que vous pouvez faire pour un être humain qui a traversé ça, puis vous en avez autour de vous, c'est sûr, parce que la maltraitance, elle est très répandue au Québec. La maltraitance, le rapport Laurent disait que ça coûte 4 milliards de dollars par année aux Québécois. Donc, on a un gros... Camille Bouchard le disait, la maltraitance, c'est une urgence de santé publique. Donc, c'est sûr que vous en avez autour de vous des enfants, des adolescents, des jeunes adultes aussi, puis même probablement des gens beaucoup plus âgés. Je vous invite à leur tendre la main, à les aider à se reconstruire.
Très éclairant, touchant, parlant et poignant, je dois dire, cette entrevue-là avec vous, Nancy Audet. Vous êtes conférencière, on peut aller voir justement sur vos réseaux sociaux les dates, les prochaines dates ou encore comment vous rejoindre. Je sais que vous avez beaucoup de témoignages d'enfants, d'intervenants, mais vous avez fait énormément réagir aussi parmi les auditeurs. Il y en a qui se confient sur leur passé. Et il y a beaucoup de parents aussi qui sont en train d'écrire. Elles viennent me faire prendre une belle prise de conscience en tant que parent. Continuez avec vos commentaires, 418-971-1021. Les auditeurs de Boulevard 101. Vous salue, Nancy Audet. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Salut
c'est
à vous.
Un privilège.
Merci pour l'opportunité. Au revoir.
Merci de faire cette œuvre utile en société. J'espère que ça vous a parlé, ce discours-là, ce témoignage-là. Je pense qu'on ressort avec quelques petits points à appliquer dans notre vie. Ça va peut-être être très rapide encore, notre quotidien, mais le fait de s'arrêter puis de voir comment est-ce qu'on peut aider son prochain puis ne pas être dans le jugement de la première surface reste quand même, pas un défi, mais peut-être, disons, une mission quotidienne. Disons-le comme ça. Et je vous répète la phrase de l'ouverture de l'émission Jean-Paul Sartre qui dit « Dans la vie, on ne fait pas ce que l'on veut, mais on est responsable de ce que l'on est ». Je pense que ça conclut bien l'émission. Merci d'avoir été dans l'heure CV. On se retrouve dans un instant avec Yannick Marceau qui s'en vient en studio pour Marceau le midi. Grosse émission. Entre autres, Valérie Gaudreau sera là, Antonine Iaccarini et nos chroniqueurs comme Louis Gauthier. Donc, l'international, le budget, la politique et bien sûr, plein de niaiseries de Yannick Marceau. Restez là à Boulevard 102.1. Merci d'avoir choisi votre station qui vous accompagne tout au long de la journée, entre autres avec de la bonne musique comme les trois accords et Vol à l'étalage.